France Culture.
C'est l'heure des informations de la mi-journée avec Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. En finir avec le déni, c'est ce que promet l'enseignement privé catholique qui esquisse un examen de conscience face à l'ampleur des violences physiques et sexuelles commises dans ces établissements. Des établissements qui verront leur contrôle renforcé, annonce la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Les précisions et les réactions de notre invité en direct et en studio, Arnaud Gallet, cofondateur de Mouv' Enfants, association de victimes de violences sexuelles. Plus de 30 morts au Yémen dans des frappes américaines contre les rebelles houthistes. Des frappes décisives et puissante, se félicite le président américain Donald Trump. Des bombardements qui surviennent après la menace des Houthis de reprendre leurs attaques contre les navires de commerce en mer Rouge. Après Notre-Dame de Bétharram, après Notre-Dame de Garnison, Notre-Dame du Sacré-Cœur, le collège Saint-François-Xavier d'Oustaritz ou le collège Saint-Pierre au Relecq-Cuéron dans le Finistère. Chaque semaine ou presque, la liste des établissements catholiques où des anciens élèves dénoncent avoir subi des violences physiques et sexuelles semble s'allonger, provoquant un séisme dans l'enseignement privé catholique, on va y revenir, et contraignant le gouvernement à réagir. Bonjour Lomo Mège.
Bonjour Julie.
La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, dévoile ainsi de nouvelles mesures pour lutter contre les violences dans l'enseignement privé.
Oui, pour la ministre, il s'agit de rendre systématique la remontée des faits de violence dans les écoles privées sous contrat. 7190 établissements au total où sont scolarisés plus de 2 millions d'élèves du premier et second degré. L'une des principales mesures, renforcer les inspections. Elisabeth Borne l'avait déjà annoncé il y a un mois, 60 inspecteurs en plus seront déployés en 2025 et 2026. Cela permettra d'inspecter 40% de ces établissements privés dans les deux années qui viennent, sachant que la moitié des visites doit se faire sur place. Les inspections étaient jusque-là peu nombreuses dans ces écoles, reconnaît la ministre, ce qui peut paraître paradoxal, dit-elle, dans les colonnes de la Tribune dimanche, puisque l'État les finance chaque année à hauteur de 10 milliards d'euros. Concernant les signalements en interne, les établissements privés auront l'obligation de s'emparer d'un système déjà utilisé dans le public, l'application Fait Établissement. Elle permet de faire remonter des cas sensibles au rectorat, voire au niveau national, quand c'est plus grave. Autre nouveauté pour éviter les violences envers les élèves, le numéro 119 Enfance en danger va désormais collaborer avec les écoles privées mais aussi publiques. Le service d'accueil téléphonique alertera les équipes académiques concernées lorsqu'elles seront prévenues d'une situation d'abus sur un mineur.
Lou Momège et bonjour Arnaud Gallet.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur des mouvements de lutte contre les violences faites aux enfants, Mouv' Enfants, ainsi que Prévenir et Protéger, ancien membre également de la Civise. Okay. Alors comment vous accueillez ces annonces faites par la ministre de l'Éducation nationale?
Bah écoutez, moi je suis un peu surpris déjà, si vous voulez. Alors on peut se dire comme ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Sauf que tout de suite, on peut aussi rappeler que le syndicat en fait des inspecteurs disent bien que c'est impossible en fait quasiment à mettre en place. Donc il y a un vrai sujet en fait de fond. On parle de personnes qui sont effectivement recrutées en plus, mais il faut savoir que déjà il y avait des inspections en moins. Donc ça signifie que on sait bien que les établissements privés aujourd'hui sont nettement moins contrôlés. Moi je m'interroge quand même de me dire aussi que maintenant on va avoir une coopération avec le 119. Enfin on est en 2025, on sait bien que les établissements privés sous contrat signale nettement moins, notamment par des questions de notoriété, toutes les situations de danger, etc. En fait, la question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que dans ce pays on tape du poing sur la table au lieu de caresser dans le sens du poil en fait des établissements qui sont finalement hors la loi. En fait, c'est ça le sujet. Enfin, je veux dire, même là, les choses avec le 119, à un moment donné, faut qu'on arrête un peu. C'est-à-dire qu'il y a une loi, elle est pour toutes et pour tous. Et là, on a l'impression qu'avec l'établissement catholique, d'enseignement catholique, il y a pas de problème. On peut y aller, tout doucement avec eux.
Pourtant, l'enseignement catholique semble ces derniers jours débuter ou esquisser un examen de conscience. Hier, par exemple, à Bayonne, le père Jean-Marie Ruspil, vice-régional de l'institution religieuse, a reconnu pour la première fois le caractère systémique des violences commises à Notre-Dame de Bétharram.
Oui, moi, si vous voulez, j'y ai été. Ce qui est assez surprenant, il reconnaît, mais en même temps, il dit quelque chose. Il dit découvrir. Et moi, je trouve que c'est honteux. Je dis que la congrégation de Bétharram, des frères de Bétharram, est dans le mensonge, en fait. C'est-à-dire qu'elle nous dit, tout juste découvrir. Alors même que vous allez dans n'importe quel bled des Pyrénées, comme moi, je l'ai fait quand même récemment. J'ai été à la frontière espagnole. J'ai été à Espelette. Dans différents villages. Et toutes les personnes vous disent qu'on savait ce qui se passait à Bétharram. Et eux, ils découvrent. Enfin, je veux dire, c'est formidable. Et je tiens quand même à dire j'attirerai votre attention sur quelque chose qui est fondamental. Il ne s'agit pas aujourd'hui du responsable de la congrégation des frères de Beit-Aram qui intervient également à l'international. La personne qui est responsable, en fait, ne prend pas la parole. Et on donne la parole également à un autre prêtre qui n'a aucune responsabilité, en fait, là-dedans. Donc, la vraie question, en fait, qui est donnée, c'est quoi? Enfin, ce qui est posé, c'est quoi? C'est de se dire, quelle est la légitimité, en fait, d'une telle congrégation qui souhaite se faire justice elle-même sur un crime, en fait, de masse? Vous voyez, j'étais hier à Bayonne, pour bien faire comprendre mon propos, c'est que vous avez en même temps, donc on a confié à l'IFJD, qui est comment dire, une ONG en fait qui va assurer ce service après-vente dans le cadre d'une commission.
L'IFJD, c'est l'Institut francophone pour la justice et la démocratie.
Exactement, on leur confie. Et là, vous avez Jean-Pierre Massias, qui est donc professeur de droit, d'accord, qui publiquement, au même titre que Antoine Garapon, qui est le président donc de la commission reconnaissance et réparation mise en place par l'Église elle-même, vous savez, pour apporter réparation, publiquement, ces deux personnes-là disent quoi ? Disent qu'on est face à un crime contre l'humanité, voire à des massacres de masse. Et là, on se dit, ah bon ? Mais dans ces cas-là, ça veut dire que ce sont des commissions qui maintenant, donc des commissions ad hoc, des petites commissions qui vont gérer des crimes contre l'humanité en France. Non, mais c'est scandaleux. Enfin, réellement, moi, je me dis à un moment donné, à quel moment est-ce que le ministère de la Justice va se bouger, en fait, sur cette situation-là? À quel moment est-ce qu'Emmanuel Macron, à qui on a remis le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui fait état de 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans, 13 enfants par jour, à quel moment est-ce que Monsieur Macron va éventuellement lever son petit doigt pour être en capacité de se dire que c'est inacceptable? Nous, on est là aux côtés des victimes, Mouv' Enfants, effectivement, à juste titre, mais on est quasiment seul, et je peux vous dire que les victimes sont mal, et les victimes se sentent abandonnées par la République française, et ça, c'est inacceptable, et au lieu de ça, on doit se satisfaire, en fait, on ferait même pas ça pour des vols de vélo, quoi.
Alors, il faudrait une évolution du droit, hein, c'est ce que vous souhaitez. Par exemple, certaines victimes, anciens élèves de ces établissements privés catholiques, demandent de fixer dans la loi l'imprescriptibilité des violences sur enfants, c'est aussi ce que préconise la Civise. Mais alors, comment on peut prouver des faits remontant parfois à des décennies, les témoins, les auteurs, les preuves, quand elles existent, ont parfois disparu?
En fait, il y a tout un travail à faire, effectivement, au niveau de la preuve. Ça, c'est une évidence, mais quoi qu'il en soit, que ce soit avec l'imprescriptibilité ou non. Donc, ça veut bien dire que l'imprescriptibilité, ça amènera aussi inévitablement bien d'autres débats. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça permettra de reconnaître aussi, bah, vous avez quand même des faisceaux d'indices aujourd'hui. Vous avez notamment avec Beit-Aram, prenez l'exemple, vous avez quand même plus de 150 plaintes qui ont été déposées. Bah, vous avez des personnes qui ont été témoins de certaines choses, etc. Donc, il y a de quoi quand même faire des enquêtes. Et aujourd'hui, simplement, on doit satisfaire. Enfin, c'est juste la prescription qui permet à des personnes, et notamment un surveillant comme Cheval, c'est une personne qui a violé des enfants, etc., etc., lui, il est tranquille, en fait. Il n'y a pas de problème, en fait, comme d'autres pédocriminels. C'est la prescription, en fait, qui lui permet d'être libre aujourd'hui. Mais c'est insupportable. Les victimes, en fait, leur peine est imprescriptible.
Merci beaucoup, Arnaud Gallet. Merci d'avoir été l'invité de France Culture. Je rappelle que vous êtes cofondateur des mouvements de lutte contre les violences faites aux enfants, Mouv' Enfants, ainsi que Prévenir et Protéger, ancien membre également de la Civise.
Merci.
Le service national universel, vivement critiqué et considérablement amputé de ses crédits dans le dernier budget, pourrait renaître de ses cendres. C'est en tout cas ce que souhaite le président de la République, qui annonce donc une grande refonte du SNU dans les prochaines semaines. Un SNU qui correspondra aux besoins de la nation, explique-t-il aujourd'hui dans la presse, alors que le débat sur une réintroduction du service militaire obligatoire revient en force dans plusieurs pays européens face à des bouleversements géopolitiques majeurs. Le chef de l'État dit vouloir consolider la mobilisation de la société face aux crises. Des bouleversements liés en grande partie au retour d'un président belliqueux à la tête de la première puissance mondiale. Donald Trump déclare que les États-Unis ont frappé les rebelles houthistes du Yémen. Hier, au moins 31 personnes ont été tuées selon les insurgés. Des frappes américaines en représailles aux menaces des houthis sur le commerce maritime et qualifiées d'attaques barbare par l'Iran qui soutient ces rebelles. Et bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
De la rédaction internationale de Radio France. Il s'agit donc du premier acte de guerre déclenché par Donald Trump depuis son entrée en fonction il y a 2 mois.
Oui, Donald Trump qui a promis l'enfer à la milice rebelle houthi, les houthis qui avaient annoncé la semaine dernière reprendre leurs attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre les navires liés à Israël, des attaques qu'ils avaient suspendues avec la trêve fragile à Gaza, mais qu'ils ont donc décidé de reprendre en représailles à la décision d'Israël de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, ce qui a des répercussions sur l'économie mondiale et notamment américaine, puisque cette zone est une des principales routes commerciales maritimes au monde. Les bombes bombardements américains hier ont principalement visé la capitale, Sanaa, mais aussi la ville de Rada au centre et la province de Saada au nord du Yémen. Au moins 31 morts, une centaine de blessés selon les Houthis qui disent ce matin être prêts, je cite, à répondre à l'escalade par l'escalade.
Mais à travers ces frappes sur les rebelles houthistes, ces bombardements sont surtout clos d'un message que Donald Trump adresse à l'Iran.
Oui, un message explicite, ne menacez pas le peuple, le président américain ou les routes mondiales, a lancé Donald Trump. Si vous le faites, l'Amérique ne vous fera pas de cadeau, menace balayée par Téhéran. Le gouvernement américain n'a aucun droit de dicter la politique étrangère de l'Iran, a rétorqué le chef de la diplomatie iranienne. Les Houthis sont considérés comme un des piliers de l'axe de la résistance, cette galaxie de pouvoirs et de mouvements armés que Téhéran soutient, finance ou arme à travers le Proche-Orient, un axe très affaibli par les coups portés au Hezbollah libanais, au Hamas et la chute de Bachar el-Assad en Syrie.
Claude Guibal, alors si elles avaient cessé à la suite de l'entrée en vigueur le 19 janvier d'une trêve fragile à Gaza, les rebelles houthistes avaient promis donc de reprendre ces attaques de navires depuis une semaine, en solidarité, disent-ils, avec les Palestiniens, après le refus d'Israël de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave. Une enclave qui reste également inaccessible, y compris à certains Gazaouis coincés en Cisjordanie occupée, où ils s'étaient rendus notamment pour s'y faire soigner. Amira Swilem les a rencontrés à Ramallah.
Les yeux embués, Faraj se repasse en boucle des vidéos de son fils.
Je parle avec lui quand ils arrivent à avoir Internet. Je veux qu'il puisse me voir et qu'il se familiarise avec son père. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu le voir en vrai, ni le prendre dans mes bras. Si on me propose de rentrer à Gaza, je rentrerai tout de suite, au plus vite. Mon père a été tué, je n'ai pas pu lui faire mes adieux. J'ai eu un fils et je ne l'ai toujours pas vu. C'est très difficile.
Faraj était venu se faire soigner de sa leucémie à Ramallah. Depuis, il y est bloqué. Comme lui, ils sont 90 Gazaouis à vivoter dans cet hôtel. Autour d'une rupture de jeûne en ce mois de Ramadan, ils tentent de retrouver un semblant de normalité. Nawaf Hamed, le propriétaire de l'hôtel, distribue de larges sourires à ses hôtes. La nuit, confie-t-il, quand il passe dans les couloirs, il entend leurs pleurs étouffés.
La plupart ont perdu leur maison ou des proches. En plus, ils n'ont pas de revenus, pas de moyens de subsistance. Quand vous parlez avec eux, vous sentez qu'ils sont ailleurs. Cela devient trop long. On n'a plus la force de faire face à cela.
Alors qu'Israël pousse au départ forcé des Gazaouis de l'enclave palestinienne, le retour de ces naufragés de la guerre n'est clairement pas à l'ordre du jour.
Amira Swilem, correspondante en Cisjordanie occupée. Au moins 59 personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été blessées dans un incendie qui a ravagé la nuit dernière une discothèque bondée de Macédoine du Nord. D'après le ministère de l'Intérieur, l'incendie aurait débuté à la suite d'étincelles provenant d'engins pyrotechniques utilisés lors d'un concert. L'intelligence artificielle au service de la détection des cancers de la peau cette fois. Si son usage n'est pas nouveau, il est amené à se développer dans le diagnostic notamment des cancers de la peau et des mélanomes. Ils ont été multipliés par 4 depuis les années 90. Dans le même temps, le nombre de spécialistes pour les détecter a lui diminué. La France compte ainsi moins de 3000 dermatologues aujourd'hui. Tara Schlegel.
Oui, et d'ici 5 ans, un petit tiers partira à la retraite, d'où l'idée de former des généralistes à la détection. Dans le cabinet du docteur Alexandre Lelouch, le patient peut, en plus de son rendez-vous avec le généraliste, choisir d'être cartographié.
Le patient va être pris en photo 360. On a un assistant qui est formé à pouvoir prendre les photos.
Ça, c'est un humain.
Oui, c'est un humain. Il n'y a pas de robot. C'est un humain qui va faire l'acquisition des photos. Ensuite, le médecin va venir. Et s'il y a des lésions suspectes, il va faire une dermoscopie dessus, c'est-à-dire qu'il va prendre une autre caméra avec une loupe grossissante et il va pouvoir dire si c'est suspect ou pas.
Ce mapping photo coûte 250 euros, non remboursé. La machine est un gros investissement, précise Dr Lelouch. Alors dans son étude, le chirurgien plasticien montre que son cabinet avec 2 praticiens a vu 2000 patients en 2 ans et traité 500 pré-cancers qui auraient évolué dans les 6 mois, dit-il, ou cancers avérés. L'intelligence artificielle permet d'accélérer le parcours, mais l'IA n'est qu'une aide, insiste Docteur Lelouch, qui est aussi chercheur à l'INSERM et maître de conférence à Harvard.
S'il y a dit que c'est rien, eh bien elle se trompe dans 8% des cas. C'est-à-dire dans 8% des cas, il y a un cancer. Si jamais il y a que vous dit que c'est rouge, ça veut dire que c'est un cancer, eh bien elle a raison dans 40% des cas. C'est-à-dire dans 60% des cas. Elle surdiagnostique les lésions. Mais bon, Si vous voulez, c'est une aide en plus dans le faisceau d'arguments.
L'œil du généraliste est donc indispensable pour adresser ensuite le patient à son collègue dermatologue qui, dans la journée, peut retirer la lésion. L'étude montre donc qu'en ville, à Paris en l'occurrence, l'IA accélère mais ne suffit pas. On ne peut pour l'instant confier ces machines que à des généralistes bien formés.
Tara Schlegel, la météo avec un léger adoucissement à attendre cet après-midi. La neige redevient pluie du Boitou, Charente à la Bourgogne, Franche-Comté, de la Bretagne à la Normandie. Les nuages domineront et donnent quelques averses sur les côtes de Manche. Les éclaircies sont plus larges au nord de la Seine. Les températures affichent entre 4 et 11 degrés, localement 12 à 14 près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. Merci à M. Le Chili et Jean-Guilain Meige à la technique.